dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h02 sur Radio Canu, toute l'équipe de Carreau Info est là pour vous faire vivre l'information la plus palpitante qui soit, et on va commencer par les titres.
À l'international, on aura le plaisir de vous parler d'une bavure ricaine en Syrie et de la résistance américaine au nouveau décret Trump contre les migrants, ainsi qu'un odieux et terrible féminicide au Guatemala, et on finira par une bonne nouvelle, Rockefeller a crevé. Au national, on vous parlera de la marche du 19 mars qui a eu lieu à Paris hier et de l'acharnement de la justice et de la police sur la famille Traoré. Puis du chef des stupes qui est en garde à vue aujourd'hui, une autre bonne nouvelle, ainsi que des sans-papiers qui occupent le ventre de Paris, marché de Rungis, en passant par les attentats de Grasse et d'Orly et par, triste nouvelle, le suicide d'un camarade cheminot. Au local, on reviendra sur un super barbecue qui a eu lieu aux Minguettes et sur l'odieuse clause Molière de Vauquier, ainsi que l'admirable mobilisation au lycée Douaneau de Vaux-en-Velin. Et nous finirons par le goodbye à un salaud, à savoir le préfet qui nous a réprimés pendant la loi travail. Également, le chef des Français viendra visiter Vaux-en-Velin mardi pour se gausser sur les 40 ans de politique de la ville qui nous ont mis bien dans la tête.
Et on enchaînera sur un dossier.
Le fameux dossier, eh oui, sur les ZAD, les grands projets inutiles.
Sans transition.
Sans transition, l'international. L'international, donc, la bavure en Syrie. Alors, bavure en Syrie de l'armée américaine, 42 civils tués, c'est certes pas la première, et probablement pas la dernière. Alors, contextualisation, les habitants de la région d'Iblib, au nord-ouest de la Syrie, sont des habitués des bombardements, notamment de l'armée syrienne et de son allié russe. Ce sont eux qui ont été les premiers à signaler jeudi soir, donc de la semaine dernière, que la frappe était le fait de l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. En effet, les inscriptions sur les débris des missiles récupérés après le bombardement confirment qu'ils proviennent de l'armée américaine. Alors, la justification des bombardements massifs de cette région, hein, bombardements massifs de l'armée syrienne, des Russes, des Américains, la présence de Fatah al-Sham, ancien front al-Nusra, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Alors, le jeudi dans la journée, tranquillement, le commandement américain avait annoncé dans un communiqué préalable qu'une frappe aérienne sur un rassemblement d'Al-Qaïda en Syrie avait tué plusieurs terroristes. Normal, quoi. Vive les États-Unis qui tuent des méchants. Ah, petite précision dans la journée. Le porte-parole du commandement américain reconnaît que la localisation précise de cette frappe n'était pas claire. What ? La frappe est tombée à la sortie d'une mosquée. Une jeune secouriste arrivant sur les lieux après le bombardement, dans un message instantané, précise « Pour viser quelques hommes de Fatah al-Sham, il tue des dizaines de civils. » Et cette fois-là, c'était 42 civils tués. Et c'est pas rien. Alors merci à l'armée américaine, merci les gros bœufs. Et surtout, solidarité avec les civils qui morflent tous les jours pour les velléités impérialistes et capitalistes des différentes puissances et acteurs en jeu en Syrie.
Ouais.
On va rester au niveau des États-Unis et parler de la résistance qui s'organise autour du décret sur l'immigration de Trump. Donc le 28 février, il a révisé le premier décret qui avait fait un tollé total en janvier, interdisant les ressortissants avec des visas de rentrer sur le territoire américain, etc. etc. Et donc c'est une résistance qui s'organise au niveau de la population, mais aussi au niveau des villes et des États. Et ainsi, le Nevada, la Californie et le Nouveau-Mexique, pour le moment, veulent devenir des États sanctuaires, donc en adoptant des lois fédérales protégeant les immigrés illégaux de l'expulsion. Et donc, c'est aussi le cas pour des villes comme Phoenix, où 250 000 personnes seraient menacées d'expulsion. Donc, la ville met en place, essaye de mettre en place des protections contre ces expulsions. Il y a aussi les villes qui reçoivent des aides de l'État. Donc, elles risquent gros en se positionnant à l'encontre de ce décret. Et c'est le cas pour New York, qui pourrait perdre 7,2 milliards d'aides. Mais le maire Bill de Blasio, ne semble pas y porter considération et menace même de supprimer les fichiers des cartes d'identité dans lesquelles les sans-papiers sont enregistrés pour que l'État n'y ait plus accès. Et il y a même l'avocat de la ville qui a introduit une proposition de loi qui voudrait écarter les appels d'offres de New York, de la ville, donc les entreprises qui participeront à la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc voilà, à voir si ce décret révisé, scandaleux, sera adopté par la Cour constitutionnelle. Et si c'est le cas, comment les États fédéraux vont pouvoir lutter localement contre ce décret ? Voilà.
Alors pour continuer un peu plus au sud, mais toujours dans l'horreur de pire en pire, dont 43 jeunes filles sont mortes au Guatemala dans un incendie après avoir voulu s'échapper de leur foyer. Donc on va revenir un peu sur cette tragédie qui est pas du tout un fait isolé. Et cette histoire a démarré en fait dès le 7 mars, où vers 15h, près de 80 adolescentes de 13 à 17 ans ont essayé de s'échapper de leur foyer d'accueil, situé à San José Punela, à 10 km à l'est de la capitale du Guatemala. C'est suite à leur capture et par la police locale qui les a ramenés de force et leur enfermement dans une zone baptisée le poulailler, qui est une sorte de quartier disciplinaire local, que les jeunes filles ont ainsi mis le feu à un matelas pour essayer de s'échapper. La raison de cette fuite et de cette volonté de disparaître sont en fait les mauvais traitements et les violences physiques et sexuelles dont elles étaient victimes. Mais comment on a pu arriver à un tel désespoir qui a poussé ces personnes au suicide ? Ce foyer inauguré en 2010 devait être un refuge pour les mineurs vulnérables tels que les bébés abandonnés, les enfants rescapés victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, les enfants avec des problèmes d'addiction aux drogues, les enfants ayant purgé des peines de prison sans domicile à leur sortie, enfin un certain nombre de personnes qui avaient vraiment clairement besoin d'aide. Sauf que ce havre de paix s'est révélé être en fait un véritable centre digne des pires films d'horreur, mais qui hélas était bien réel. Ainsi, ces enfants dénonçaient depuis 2014 les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivaient en raison de l'insuffisance des infrastructures, d'une mauvaise alimentation par le manque de soins médicaux, l'emprisonnement, la torture, le viol physique et psychologique, la prostitution, les cas de grossesse forcée et la traite. Loin de garantir les droits de la protection de ces jeunes, l'État guatémaltèque est devenu complice de cette tragédie en ignorant les plaintes réitérées de jeunes de ce foyer et les recommandations du procureur des droits humains et de l'UNICEF qui avait déjà conseillé la fermeture de cet abri pour mineurs. Ainsi, Raquel Hopper, mère d'un garçon de 12 ans, raconte que son fils ne voulait plus rester dans le centre car les éducateurs mangeaient la nourriture des enfants et qu'on servait à la place du pain pourri. Plusieurs adolescentes témoignent avoir été enfermées nues dans les couloirs, attachées à leur lit et violées par leurs gardiens. Quant aux parents, ils dénoncent l'impossibilité de voir leurs enfants et de communiquer avec eux, hors des rendez-vous téléphoniques surveillés par les gardiens. Après les disparitions successives de plusieurs dizaines de mineurs placés sous la responsabilité du foyer, Marini Mérida, secrétaire au secrétariat d'État du bien-être social, suspecte que les enfants sont utilisés dans différents réseaux de prostitution enfantine et dans le crime organisé du narcotrafic. Les procureurs de la PEDH dénoncent lui aussi la possibilité d'un réseau d'exploitation sexuelle. Ces soupçons sont appuyés par le témoignage de plusieurs parents dont les enfants étaient retirés du centre avant l'incendie. Une jeune fille de 16 ans en fort état de choc post-traumatique témoigne qu'une fois, un homme avec un fort accent états-unien est entré dans le centre accompagné d'un gardien pour me violer. Cette même jeune fille raconte avoir vu un enfant se faire violemment battre par les gardiens jusqu'à avoir les côtes cassées et à vomir du sang. Finalement, des doutes sont émis par les parents concernant la réaction des secours et la non-évacuation des adolescentes. En effet, un garçon de 16 ans, rescapé de l'incendie, témoigne entre deux sangs de l'eau. On connaissait les filles qui étaient enfermées, on a voulu aller les aider, mais ils nous ont empêchés. On voulait les faire sortir, mais les policiers nous ont bloqués à l'entrée. Donc ainsi, en fait, le gouvernement a laissé mourir plus d'une quarantaine de jeunes filles totalement innocentes qui cherchaient simplement à survivre. Et ce qui est hélas pas du tout un fait isolé en fait dans ce pays et dans un certain nombre de pays de vos alentours, et puis hélas aussi un peu partout dans le monde. De fait, le Guatemala était le premier pays au monde à officialiser la reconnaissance de ce qu'on appelle le féminicide, qui est le meurtre en fait de femmes en tant que crime de haine simplement parce qu'elles sont des femmes. Donc on soutient en fait tous les appels qui ont été lancés pour venir en aide en fait aux personnes. On demande comme tous les copains qui sont sur place et qui est à l'international une véritable enquête sur ce qui s'est passé et surtout la fermeture de ce centre d'horreur qui est digne des pires horreurs de l'histoire.
Poète, David Rockefeller est mort. Bien trop tard, certes, à 101 ans, comme quoi la thune, ça conserve. Et bien trop doucement, puisque ce fut dans son lit douillet, un lit de billets, qu'on espère entouré d'une meute de charognards à l'affût de sa dépouille et de son héritage. Alors, les Rockefeller, ce n'est évidemment pas un courant du rock'n'roll, mais bien l'incarnation du rêve américain et du mythe du self-made man, le fondateur de la dynastie étant le tout premier milliardaire de l'époque contemporaine. Et ouais, the first milliard do it par itself only. C'est aussi le fondateur de la Standard Oil, futur Esso, puis ExxonMobil Today. Alors la dynastie des Rockefeller, un peu comme celle des Thénardier, elle a fait couler beaucoup d'encre et de sang. Donc le Maccabée, à qui on consacre cette élégie et dont le principal mérite fut d'irriter, a laissé sa petite marque parmi les glorieuses actions de son clan. Tout le monde, évidemment, sait que pour chaque guerre fomentée, que pour chaque degré Fahrenheit accumulé sur le climat, que pour chaque nation esclavagisée, ils ont construit un petit hôpital ou une petite école, histoire de nous faire croire que c'était eux les gentils. Faut rappeler quand même que les USA d'alors avaient créé la première loi antitrust pour empêcher, sans succès, le John Davidson Rockefeller de l'époque d'acheter la planète. Alors le rejeton, évoqué ici-bas, à qui on souhaite un bon voyage en deuxième classe dans l'enfer des riches, une annexe du pôle emploi, s'est quand même illustré des années 40 aux années 80, notamment à travers le groupe de Bilderberg, créé en 1954, ou avec le Business Group for Latin America, fondé à la demande de Kennedy, très efficace dans la contre-révolution sud-américaine, notamment à Cuba. Pour parachever son œuvre philanthropique, en 1973, il fonde la Commission Trilatérale, groupe de 400 décideurs occidentaux, partisans de la doctrine dite mondialiste, qui alimente à très juste titre nombre de théories complotistes. Alors, David Rockefeller, symbole du fric, du pétrole, du biz et de l'impérialisme occidental, le pont de l'argent sale est mort. Rockefeller est mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car si Rockefeller est mort, son fric demeure.
Merci, on va passer au national avec la marche pour la justice et la dignité qui avait lieu hier à Paris. Certains de nos envoyés spéciaux s'y sont rendus. Donc 7000 personnes, c'est le chiffre fourni par la préfecture quant à la fréquentation de la grande marche pour la justice et la dignité organisée ce dimanche 19 mars à Paris en collaboration avec les familles de victimes de violences policières. C'est en réalité 20 à 25 000 personnes qui se sont rassemblées pour marcher de nation à république afin de dénoncer un racisme d'État dont trahit notamment le comportement des forces de l'ordre dans les quartiers populaires. Derrière le carré de tête composé symboliquement des familles des victimes, le cortège des mouvements antiracistes décoloniaux appelait à la mort de l'antiracisme colonial au profit d'un antiracisme politique s'attaquant au caractère structurel du racisme et de ses violences, notamment policières. Suivaient les diverses associations de quartier, puis les syndicats ayant signé ou répondant présents à l'appel, et enfin les organisations politiques signataires ou soutenant la marche. On attendait un gros dispositif pour encadrer cette manif à forte connotation anti-police. On n'a pas été déçus. Barrières anti-émeutes à chaque coin de rue, forces de l'ordre omniprésentes histoire de provoquer l'incident, canon à eau, la totale. Alors que la manifestation avait pour but de visibiliser à grande échelle les violences d'État et le caractère colonial de l'État bourgeois et impérialiste, le traitement médiatique de la marche s'est naturellement focalisé sur les traditionnels incidents en marge du cortège, à savoir quelques vitrines attaquées et quelques projectiles lancés par des éléments tout vêtus de noir et cagoulés en queue de cortège, mais également sur les dissensions entre les différentes composantes du mouvement antiraciste en France. Bien entendu, la succursale du PS SOS Racisme a vivement critiqué l'initiative, mais l'on s'y attendait tant les mots d'ordre et le caractère politique de l'appel visaient les tentatives de dépolitiser et ainsi neutraliser les luttes. Mais des critiques se sont également fait entendre de la part d'organisations militantes depuis longtemps implantées dans les quartiers, en regrettant notamment l'abandon du terme islamophobie dans l'appel à cette marche et la récupération politique aussi bien des orgas ayant rédigé l'appel et contribué à l'organisation de la marche, peu présente à leurs yeux au jour le jour dans ces quartiers, que des partis politiques traditionnels et majoritairement blancs dans un contexte de campagne présidentielle. Convergence en demi-teinte donc...
Tu penses à quelqu'un en particulier ?
Il y avait le NPA, Lutte Ouvrière, le Front de Gauche, le PCF, enfin tout ça quoi.
Il n'y avait pas Falluche aussi ?
Falluche, non, il n'était pas. Mmh. Finalement, il n'est pas venu. Il avait trop bossé la veille. Et convergence en demi-teinte, donc, mais une démonstration de force et tant de mixité sociale et raciale au sein du cortège faisait bien du bien compte tenu de l'ampleur de la manif. Sans compter la radicalité et le caractère politique des slogans et des interventions de militants et militantes au micro tout au long de la marche. Une étape certainement nécessaire qui en appelle à d'autres, le combat continue hélas.
Alors justement, puisque le combat continue, puisque les agressions continuent, les agressions racistes, les agressions de classe continuent, hein, le tribunal de Pontoise a encore commis une nouvelle agression contre la famille Traoré, encore une fois la famille Traoré, et des proches, notamment Yacouba Traoré et Dooms, emprisonnés cette semaine pour respectivement 18 mois et 15 mois de prison. Alors voilà ce qu'on dit à Assa Traoré, la sœur, la frangine Traoré. En 7 mois, ils nous ont fait un mort et trois prisonniers. Contextualisation, ce lundi 13 mars au matin, la gendarmerie de Beaumont, celle qui a tué Adama, a monté une opération spectaculaire. Il s'agissait pour elle, d'interpeller Yacouba. Alors désolé si j'écorche le prénom, Shane, Youssouf et Dooms dans le cadre de la plainte d'un jeune Beaumontois qui les accusait de violence à son égard. Alors, cette fois-ci, pas de convocation envoyée en amont et pas d'interpellation au domicile, non. Il fallait du spectacle et du muscle pour prouver que les membres de la famille Traoré et leurs potes étaient dangereux et sont dangereux. Alors, Cheikh Traoré a par exemple été interpellé à 6h du matin dans le bus qu'il amenait à son taf par 12 keufs, en plein rond-point, comme des cow-boys, histoire qu'il soit bien ciblé, que tout le monde le voit. Et c'était exactement la même méthode pour l'interpellation de Baggy Traoré en novembre. Alors salir la famille, l'isoler et la réduire au silence, voilà ce que veut le pouvoir. Yacouba Traoré a reconnu avoir porté le coup de poing et a écopé de 18 mois de prison ferme, ainsi que 2 ans d'interdiction de Beaumont-sur-Oise. Dooms, rappeur engagé, a pris 15 mois de prison ferme, plus 2 ans d'interdiction de Beaumont-sur-Oise. Le délibéré a duré 20 minutes. Et c'était étrangement la même procureure de Pontoise que celle qui a condamné Baggy et Youssouf Traoré. Alors...
La même juge,
la même bande en face, en fait, qui continue à s'acharner sur cette famille qu'on espère bientôt finir d'en baver, mais visiblement, c'est pas le cas. Et donc, solidarité une fois de plus avec cette famille Traoré.
Bravo, les Traoré.
Et pour continuer dans les nouvelles pas très réjouissantes, Edouard, un syndicaliste sud-rail, cheminot un peu trop attaché, selon sa direction, à lutter contre la misère imposée par les capitalistes, s'est suicidé dans la nuit du vendredi au samedi 11 mars. Mise à pied, avertissement en tout genre, il était la cible de l'acharnement de la direction de la SNCF depuis plusieurs années déjà, qu'il accusait entre autres d'avoir eu un regard menaçant et d'être cause de souffrance pour la direction.
Ah mais ça doit être terrible pour la direction, un regard menaçant, la vache.
Alors en 2012, la SNCF avait été condamnée pour discrimination syndicale et harcèlement envers Edouard, jugement qui avait été confirmé en appel en 2015, mais la Cour de cassation avait annulé cette décision en septembre 2016, donc assez récemment. Et la SNCF, enhardie par cette décision dégueulasse, s'était alors mis à accuser Edouard de harcèlement envers ses collègues, sans aucune preuve. Ainsi, la direction venait de décider en fait la mutation d'Edouard. Donc une mutation
punitive,
forcée punitive. Voilà. Ouais.
et avait décidé cette mutation alors que Edouard était travailleur handicapé et sans passer par le CHSCT, c'est pourtant une obligation pour les travailleurs handicapés. Donc Edouard, en plus de faire face aux pressions managériales, aux restructurations permanentes, à la dégradation générale des conditions d'existence de tous les cheminots, faisait face à une répression syndicale individuelle, ciblée et consciente. La direction de la SNCF voulait se débarrasser d'Edouard, trop combatif à son goût, et lui montrer à tous les instants. Elle est donc responsable directement, immédiatement de cette mort. Les techniques ignobles de management, déshumanisantes et tout entières dirigées vers le profit de la direction de la SNCF sont les seules responsables de ce suicide. Cette affaire n'est pas un accident. Elle nous rappelle le caractère systémique de ce genre de pression, particulièrement au sein de la SNCF. Quelques jours après ce suicide, d'ailleurs, elle convoquait une autre militante Sudrail, Nathalie Pradel, à un entretien de licenciement. En avril 2016, un cheminot de Béziers mettait aussi fin à ses jours sur son lieu de travail. Et cet automne, rappelez-vous, les syndicats découvraient une note dans un bureau de la gare Saint-Lazare avec le nom d'une vingtaine d'agents et des commentaires à coller du genre « travail correct mais pas ouf »,« racaille de bas plafond »,« stupide »,« un peu instable », »,« fêtard », j'en passe. Pour Edouard et pour nombre d'autres travailleurs, le suicide est souvent la seule manière d'échapper à des supérieurs tyranniques, aux méthodes dégueulasses des DRH, à la discrimination syndicale dont ils sont les victimes. Pour beaucoup de ces travailleurs, le suicide, c'est en finir avec l'exploitation individuellement. Et oui, parce que les capitalistes, eux, ils sont bien organisés pour nous faire croire qu'aucune solution collective ne peut être trouvée. Ils isolent les travailleurs pour assurer leur rente, et cet isolement produit des situations dramatiques. Les accidents du travail, les burn-out, les suicides sur les lieux de travail ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat de l'offensive des capitalistes contre les travailleurs. Mercredi matin, 300 personnes se sont rassemblées en mémoire d'Edouard pour dire le chagrin et la tristesse, mais aussi pour affirmer que nous ne laisserons pas tuer nos camarades par la folie des capitalistes qui n'ont pas encore gagné la guerre qu'ils nous mènent.
Même si ils s'organisent beaucoup, d'ailleurs au plus haut niveau du contrôle social, on a une star. Une star qui nous fait à tous poser la question, mais que fait la police? Que fait la police? Citoyens, citoyennes, ne vous êtes-vous jamais posé cette petite question tout simple? Quand les petits poulets ne tapent pas sur les immigrés, quand ils ne répriment pas les manifestations, quand ils ne tuent pas, ou violent, ou mutilent, ou humilient les quartiers populaires, quand ils ne sont pas occupés à vous mettre des prunes, ou à fouiller vos enfants et à leur mettre des matraques dans les fesses, quand ils ne sont pas occupés à nous surveiller tous et quand ils ne sont pas occupés à boire l'apéro, mais bout de Dieu, que fait la police? Que fait la police? Visiblement, elle peine à combattre le crime. En effet, la plupart des meurtres, des viols et des cambriolages restent irrésolus, sans parler évidemment de l'évasion fiscale. Certains petits malins, que je connais bien, nous répondront qu'elles veillent sur la propriété bourgeoise et protègent le pouvoir. Mais enfin, ce ne peut pas être tout. Et pour la drogue, ce fléau social, comme l'alcool, les Pringles ou les séries télé, la drogue, cet ennemi de toute société, que fait la police? Car si 90% des personnes détenues le sont pour commerce de drogue, celui-ci, bien loin de reculer, semble, selon toutes les études internationales, progresser à très grande échelle, en pleine expansion, malgré les soi-disant efforts considérables des stupes. Et ouais, que fait la police? Eh bien, c'est la question que pose le parquet de Paris à François Thierry, ancien directeur de l'Octrice, Office central de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on lui pose la question. Que fait la police? Car si l'ancien patron, caïd on peut dire même, de la lutte anti-drogue a été mis aujourd'hui en garde à vue avec trois de ses sbires, il avait entendu le 1er mars dernier et, à rigolade, déjà placé en garde à vue en 2013 après une saisie de coke à Orly. Stupéfiant, non? Là, le cas est vraiment marrant. En effet, le 17 octobre 2015, 7,1 tonnes de shit ont été interceptées à Paris dans le 16e arrondissement. Cette importation de drogue, hein, parce qu'il s'agit d'une importation, elle s'inscrivait dans le cadre d'une opération secrète, tu m'étonnes, pour soi-disant infiltrer un réseau. Or, pas de chance, une facture et l'ADN de Sofiane Hamli, surnommé le millionnaire du cannabis, vivant dans un penthouse 200 mètres carrés avec piscine sur le toit, juste à côté de la saisie, hein, et qui s'était évadé spectaculairement de la prison de Metz en 2003, à nouveau en Toulon en 2009, eh bien, ce shit a été retrouvé dans les trois camionnettes. Pardon, son ADN et son shit ont été retrouvés dans les trois camionnettes qui transportaient, eh bien, le shit. Hein, moi, je m'embrouille un peu. Et là, stupéfiant, on apprend que François Thierry, le chef anti-drogue, aurait recruté Sofiane, comme indique, en 2009, alors qu'il était encore en prison. Et, encore plus stupéfiant, l'avocate qui a défendu le dealer en 2011 et obtenu sa libération en 2015 n'est qu'autre que l'épouse de notre chef flic, François Thierry. Stupéfiant, non ? Alors, que fait la police ? Eh ben, du trafic de drogue. Voilà.
C'est toujours Radio Canu, on continue après cette stupéfiante chronique.
Et on va du côté de Rungis, puisque depuis jeudi, 105 travailleurs migrants ont investi le centre administratif du marché de Rungis pour réclamer leur régularisation. Alors le plus gros marché de produits frais du monde, hein, 234 hectares quand même, embauche de nombreux sans-papiers par l'intermédiaire, comme c'est souvent le cas, de boîtes d'intérim comme Manpower ou Link, pour ne citer qu'elles. Donc pour certains, ils travaillent depuis des années au marché. Mais depuis 2015, et ce, malgré toutes les preuves de travail qu'ils peuvent apporter, c'est-à-dire la plupart du temps des bulletins de paye, puisque les boîtes d'intérim en délivrent parfois, toutes les demandes de régularisation sont systématiquement refusées par la préfecture, et comme souvent, la dissuasion est accompagnée d'une notification d'OQTF, entendre obligation de quitter le territoire français. Donc pour rappel, pour obtenir un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, il faut résider en France depuis plus de 5 ans et avoir travaillé 8 mois sur les 24 derniers ou 30 sur les 5 dernières années. Donc avec un CDI, on obtient une carte de séjour à renouveler chaque année. Avec un CDD, on a un titre de séjour de la durée du CDD. Pardon. Ils étaient donc plus d'une centaine ce jeudi à réclamer leurs droits, mais ils sont en réalité plus de 600 à arpenter chaque jour les dédales du marché. Et donc à 5h40, ils ont pris d'assaut la tour Saint-Maurice. Donc bien c'est joué. Le centre administratif du marché. Ouais, bien joué. Et pour réclamer la régularisation de toutes, ce qui est tout à fait leur droit, hein, puisqu'ils répondent aux critères déterminés par la préfecture elle-même pour être régularisés. Et voilà, ils demandent donc la régularisation et sont déterminés à occuper la tour jusqu'à satisfaction de toutes leurs revendications. Et donc, après un week-end dans cette tour, une quinzaine de nouveaux sans-papiers sont venus rejoindre la démarche collective ce lundi matin. Une caisse de grève a d'ores et déjà été mise en place. Donc, quand on connaît les conditions d'extrême précarité dans lesquelles vivent la plupart des sans-papiers, on ne peut qu'inviter les copains parisiens à aller leur rendre visite pour leur montrer leur solidarité politique, mais aussi financière, parce que pour mener une grève, il faut de la thune.
Voilà. Et maintenant, quelle est la différence entre un attentat et une fusillade ? Dans le cas d'un attentat, dans le cas d'un attentat, le coupable est un terroriste. En gros, il fait la guerre à la France, à la République et lance des Allahu Akbar au moment de perpétrer le crime. Ou bien, comme ce samedi matin à Orly, s'exclame « Je suis là pour mourir pour Allah ». Comme relatent les militaires qui lui donneront la mort 2 minutes plus tard, aussitôt relayés par les médias. Dans le cas d'une fusillade, l'auteur est une personne sensible, fragile même, comme le révèlent les mêmes médias du fait, je cite, de ses mauvaises relations avec certains élèves et de ses difficultés à s'intégrer. Alors qu'à l'annonce du drame, BFM TV, déjà sur place, demandait à un interlocuteur si l'agresseur armé avait crié quelque chose, le « Allahu Akbar » était sur toutes les lèvres, sauf sur celle du témoin qui répondait sèchement à propos de l'un des blessés « Oui, il a crié de douleur ». On notera très peu de mentions du contexte familial. Le père du lycéen était pourtant élu local, ancien membre du Front National, devenu partisan de François Fillon. La piste terroriste, hélas, était écartée aux grandes dames de la frange estrosienne. Aucune enquête à l'horizon sur la méthode employée par le garçon pour se procurer le fusil à pompe et les plusieurs armes de poing en sa possession. Piqué à papa ? Non, certainement pas. Pas de traces de perquisition. De toute façon, les preuves auraient été effacées. Après tout, les armes ayant servi aux attentats de l'hypercacher avaient été fournies par un militant néo-nazi. Oui, mais il s'agissait d'un attentat, pas d'une fusillade. Et le garçon était fragile, rappelons-le. Bref, une fusillade n'est pas un attentat et jamais on ne demandera aux lycéens fragiles de se désolidariser de leurs compatriotes. Quant à destituer les parents de mineurs élus d'extrême droite en cas de fusillade malencontreuse, on évitera, Dieu merci, l'amalgame.
On passe au local.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et du coup, un peu à cheval sur l'actu nationale et locale, je voulais revenir sur la clause Molière. Donc lundi dernier, pendant qu'on préparait tranquillement et en toute innocence le Canu Info du 13 mars...
Mais qu'allons-nous faire dans cette galère ?
Laurent Wauquiez, cet ardent défenseur de la langue française, était en parade sur un chantier de la charmante bourgade de Saint-Chamond, dans la Loire, pour présenter officiellement sa brigade de la langue française. Alors, une brigade de la langue française, what the fuck, comme diraient les jeunes. Eh bien, figurez-vous que le 9 mars, notre Lolo régional a fait voter une clause imposant le français sur les chantiers dont elle est le maître d'œuvre, la clause Molière. Lol. Alors, cette mesure avait déjà été imposée en Normandie, dans les Hauts-de-Seine et depuis la semaine dernière en Île-de-France. Alors, soi-disant pour éviter le travail détaché. Alors, pour le barbu là-bas au fond du studio, qu'est-ce que c'est le travail détaché ? C'est l'embauche de travailleurs d'autres pays de l'Union européenne selon le droit du travail en vigueur dans le pays d'origine, c'est-à-dire bien moins cher en fait qu'en France, quoi. Donc, pour le patron, c'est cool. Alors aujourd'hui, ça représente quand même 25% des salariés du BTP. Donc un bon système de merde qui profite au patron du BTP, qui embauche en plus également allègrement des sans-passe-pieds dans des conditions autrement plus merdiques. Donc pour lutter contre ce fléau, parce que c'est vrai qu'en termes de conditions de travail, c'est à peu près l'assurance du nivellement généralisé par le bas, certains présidents de région fort aguerris ont trouvé cette idée fabuleuse. Interdire de parler une autre langue que le français sur les chantiers de leur administration.
Et comment ils font ceux qui parlent pas français du coup ?
Bah ils peuvent pas.
Ah, ils peuvent pas. Ils parlent pas en fait.
Le crapaud et le
l'entreprise renard. Doit embaucher un interprète.
Et à quand l'interdiction de l'anglais dans les conseils d'administration ?
Ah, mais c'est là où j'allais en venir justement. Donc comme d'hab, les patrons font de la merde et c'est aux ouvriers de payer. Je remercie d'ailleurs les capitalistes de nous faciliter le travail d'analyse avec ce genre de mesures. Le principe, c'est donc on t'exploite et on te fait payer pour ta propre exploitation. Du coup, bon, faut pas délirer. C'est pas vraiment pour protéger les travailleurs, mais bien pour protéger les travailleurs blancs qui parlent bien français. Sur les chantiers, c'est en effet pas vraiment la majorité. Vous me direz, c'est pas un peu raciste quand même comme mesure du coup ?
Non,
mais Wauquiez assume parfaitement sa préférence nationale.
C'est pas un peu raciste quand même ?
Ah, c'est là où je voulais en venir justement. Incroyable. Donc Wauquiez assume parfaitement sa préférence nationale. Je cite un de ses tweets. Je préfère payer plus cher un chantier, mais qu'il soit confié à 100% à des travailleurs locaux. Je l'assume et je ne l'achète pas. Mais je suis une meuf branchée. Ouais, locaux. Ouais, du coup, voilà, moi je suis Wauquiez sur Twitter. Hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour. Hein. C'est passionnant. Hein. C'est la cour des miracles de l'islamophobie et de la fachosphère, avec 2-3 pics sur Macron de temps en temps. Enfin bref, Mendel Pouèche, notre regretté préfet, avait jugé la clause discriminatoire. Bon, sachant qu'il n'est quand même pas le premier sur le front de l'antiracisme. Et en fait, cette mesure, elle est à moitié illégale. Mais bon, comme d'hab, hein, c'est un détail de l'histoire. Même. C'est une mesure contre les pauvres, les ouvriers non qualifiés, étrangers ou issus de l'immigration. En somme, ceux dont les conditions de travail sont les plus pénibles, ceux qui sont le plus exploités, en plus de subir chaque jour le racisme. Les bourgeois, quant à eux, pourront continuer à faire leurs réunions de direction en anglais. Molière à bon dos. Alors, cette manière qu'a Laurent Wauquiez d'exclure les plus précaires des chantiers, mesure raciste il en est, n'a d'autre but que poursuivre l'offensive générale de la bourgeoisie contre les prolétaires. L'un des leviers préférés de celle-ci pour y parvenir, c'est la mise en concurrence des travailleurs entre eux, c'est-à-dire expliquer aux ouvriers blancs francophones « vos ennemis ne sont pas les capitalistes, ce ne sont pas les patrons ». Vos ennemis, ce sont les travailleurs immigrés qui viennent vous voler votre travail. Donc, le FN a définitivement gagné du terrain partout, mais c'est aussi et d'abord à la préservation de leurs intérêts que les capitalistes travaillent. Et face à leurs tentatives ignobles de division, face à leur racisme et face à cette tartufferie, plus que jamais, nous devons nous montrer solidaires et déterminés.
Et donc, du coup, on arrête tous de parler français.
Voilà.
Et on note l'introduction de tartufferie au vocabulaire de Radio Canu Info de lundi.
Alors on continue, dimanche au Minguette, on a fait un petit barbecue avec les amis et la famille d'un certain Mehdi qui est mort suite à une course-poursuite à Vénissieux. Encore une fois, les flics en sont responsables, hein, c'est pas la première, malheureusement peut-être pas la dernière. Donc on était pour certains pas à Paris et donc ce barbecue c'était dans le parc des Minguettes. Ça s'est bien déroulé, alors selon les chiffres de la police qui n'étaient pas présentes, donc on en a assez peu, non, on était environ 70-80. hein, au pic, on va dire. On a réussi à faire passer certains messages. Voilà, on l'espère. En tout cas, solidarité avec les quartiers populaires qui subissent les violences policières. C'était un peu l'idée. Et c'était aussi au nom et organisé par la famille et les amis de Mehdi. Et pour Mehdi et en hommage à Mehdi qu'on a fait ça ce dimanche au Minguette. Donc voilà.
On n'oublie pas, on pardonne pas. Sans transition, lycée Douaneau. Courageux, volontaire et gréviste.
Ou pas.
Oups.
Donc, alors non, voilà, on va pas parler de Douaneau. Que la grève au lycée Douaneau se poursuit à la fois avec le personnel et les lycéens.
Et les parents.
Et les parents sur les conditions d'études, la scolarité, mais aussi contre les violences policières.
Bravo. Magnifique mobilisation, on vous invite à suivre le compte-rendu sur Rebellion. Et là...
Oui, juste un petit au revoir à Gérard Gavoni, donc, qui s'en va en Gavori, pardon, qui s'en va en Haute-Corse. Et donc Gérard Gavori, c'était le préfet délégué pour la défense et la sécurité, qui a été très actif au printemps dernier lors des mobilisations autour de la loi travail.
Bye bye.
Au revoir, bon vent.
On va passer au dossier maintenant. Je pense qu'on verra après pour la fin, on verra la suite dans l'agenda.
Dossier.
Donc on va vous parler de quoi aujourd'hui ?
Des ZAD.
Des ZAD, des grands projets inutiles. Et donc on va commencer avec un morceau de rap qui s'appelle Gaïa Akbar et c'est fait par Brava. Et ça va nous introduire ce dossier.
Ce qui me navre, moi, c'est qu'on organise aujourd'hui, je pense notamment à ces jeunes qui peuvent avoir un idéal, et tout le monde en a, on en a eu aussi quand on était jeunes, je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert.
On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaires. La politique fait cette maudite logique de pensée mortifère. D'ordinaire, humain si en terre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. On est dépendant du pétrole. Si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. À moins qu'on pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser, admirer le capital. Pour lui c'est un festin, il investit dans le béton qui ne fait qu'infester les terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des center parks et des aéroports. Mais un espoir est né autour des marécages, levons les barricades et que l'état dégage, car la ZAD vivra. C'est ça le paf parle, le djihadisme vert, on dilapide vos machines de guerre. Kaya Wakba. Planquer les machines et djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Cherche un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages, à la faune et à la flore de nos vies, que c'est parigage. Résistance et sabotage, des maquis au bocage. Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse. À la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable, loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle, pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Kaya Wakbar, c'est clair et sans concession. C'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et consciencieux, le système met la pression. Normal que toutes les armes soient si précieuses. Planquer les machines et djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Sous le poids du ciment, on atteint la rage de raison. Nos vies asphyxiées sous une plaque de béton, éclairées au néon.
Mais qui sont ces bêtes et méchants, ces terroristes, ces djihadistes verts, deux zadistes? Nicolas Aehringer, dans lemonde.fr, essaye d'expliquer qu'il faut d'abord résister à la tentation de les catégoriser pour deux raisons. De un, si on colle un label sur les zadistes, on adopte un jargon des autorités pour justifier qu'il n'est pas possible de dialoguer avec eux, et donc une répression est nécessaire et justifiée. Et de deux, c'est qu'on renonce à se saisir de ce qui se joue là-bas. Des pratiques, des expérimentations, des choix de vie, de société dont le propre est de faire évoluer les identités, les comportements formatés par le capitalisme hors des cadres existants. Ce qui se joue dans les ZAD, zones à défendre, ce sont les résistances à la promotion du tourisme de masse, la construction de projets inutiles, aéroports, barrages ou parcs de loisirs, mais aussi la résistance au système capitaliste.
Alors, on enchaîne et on commence par le Val de Suse. Pourquoi le Val de Suse? Puisque, historiquement parlant, c'est une des premières luttes de résistance à un grand projet inutile, et c'est probablement la plus intéressante politiquement parlant. Alors, ça se situe au nord de l'Italie, notamment à 50 km à l'ouest de Turin, et ça a fait l'objet de beaucoup d'attention pour le pouvoir politique italien, mais également français. Donc, c'est la construction d'une ligne LGV, donc ligne à grande vitesse, Turin-Lyon ou Lyon-Turin, en fonction du sens dans lequel peut-être les gens la prendront ou pas. Nécessitant...
Pas con.
Eh ouais, je sais, j'ai fait exprès. Nécessitant donc cette ligne de creuser un tunnel long de 57 km dans le Val de Suse. Le projet a au moins 40 ans. Depuis les années 1990, le mouvement NOTAV, TAV, c'est l'équivalent de LGV, hein, ligne à grande vitesse en italien, se bat contre ce projet. Ce mouvement est notamment composé des habitants de la vallée, les premiers d'ailleurs à s'être organisés contre le projet et la destruction de leur vallée, dont des anciens activistes turinois sur des bases anticapitalistes, parfois autonomes, donc toujours très connectés à Turin, où les luttes autour des questions d'aménagement du territoire et contre la gentrification sont nombreuses encore aujourd'hui, mais également contre les logiques de la recomposition du capitalisme, dont la métropolisation est l'un des stigmates. Alors, on va faire un rapide débrief sur ce projet. 26 milliards d'euros de prévus, dont 13 milliards uniquement pour le tunnel, dont les bénéfices iront directement dans les caisses des entreprises du BTP, responsables du projet, payés par l'État français et italien. Nos impôts. Dangereux pour la santé des populations, ce projet.
J'en paye pas.
Dangereux pour la santé des populations, puisqu'il est prouvé que la montagne qui est censée traverser la LGV Lyon-Turin est truffée d'uranium et d'amiante, et qu'il n'est pas prévu d'évacuer et de sécuriser ces matériaux très dangereux, et le cas échéant, ce qui ferait considérablement gonfler l'addition.
L'uranium, ça s'arrête au front.
Oui, c'est vrai, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Ce projet a déjà provoqué le déplacement forcé de nombreux habitants de la vallée, et que ce processus est loin d'être terminé. Et qu'il est évident que ce projet est en partie géré par la mafia italienne, en lien avec les entreprises du BTP, mafia qui n'hésite pas à utiliser des moyens tous plus illégaux les uns que les autres pour faire avancer le projet et mater les contestataires. Que les bulldozers ont déjà détruit une partie d'une nécropole millénaire, un site archéologique exceptionnel datant du 5e siècle avant Jésus-Christ et constituant l'une des premières traces de présence humaine dans les Alpes. Aujourd'hui, ce site est cerné par une haute enceinte peuplée de jeeps de l'armée, entourée de grilles anti-émeutes et ornée de barbelés. Alors également, sur une vallée de 90 000 habitants, déjà 1000 personnes ont été inculpées, condamnées à des peines parfois très lourdes, et notamment de la prison ferme. Certains et certaines sont assignés à résidence, d'autres sont mutilés, puisque la répression policière est délirante, les exactions et les violences policières, voire militaires, sont très fréquentes. La zone est, par certains endroits, occupée en permanence. Le chantier est régulièrement à l'arrêt, d'ailleurs, pour tout un tas de raisons. Occupation de terrain, deux pans entiers de la vallée, H24. Des manifestations monstres sur zone de plusieurs dizaines de milliers de personnes ont lieu assez fréquemment. Une solidarité avec beaucoup d'actions à Turin, mais aussi ailleurs, ont lieu régulièrement. Et d'ailleurs, cette lutte, histoire de ne pas rester isolée, s'est mise en lien avec une autre, très connue sur le territoire national français, celle de Notre-Dame-des-Landes. Alors, Notre-Dame-des-Landes, autre lutte intéressante, hein, c'est un projet qui a 50 ans au moins, et le conflit entre les opposants et les partisans a au moins 45 ans, avec un gros pic quand même ces dernières années. Ce projet, donc, c'est un projet de construction d'un gigantesque aéroport sur 1600 hectares de terres bocagères et de zones humides, qui a rapidement été appelé ZAD, zone d'aménagement différé, à partir de 1973. Il a été enterré pendant plusieurs années et il a ressurgi en force en 1999-2000 par une certaine Dominique Voynet. Dominique Voynet, oui,
une écolo
sous le gouvernement Jospin, avec donc sa loi sur l'aménagement du territoire. Car Dominique Voynet nous promet que l'aéroport sera tout vert. Alors, à la manœuvre...
Garantie sans avion.
Carrément. À la manœuvre, un certain Jean-Marc Ayrault, donc ex-premier ministre, actuel ministre des Affaires étrangères, à l'époque maire de Nantes et président de Nantes Métropole, mais également un certain François Fillon, président du Conseil régional à l'époque. Alors, derrière tout ça, c'est évidemment encore une affaire de gros sous.
Ah bon ?
Eh oui, bah oui, sinon ça n'existerait pas, voyons. Vinci, principale entreprise du BTP française, est derrière ce projet, avec à la clé, en fonction des chiffres avancés, des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros. Alors, on a déjà, pour ce projet, des déplacements forcés, hein, très largement engagés, de petits agriculteurs, d'éleveurs, entre autres. Ce projet, c'est également la destruction d'une zone humide, d'une importante biodiversité, mais c'est un projet d'utilité publique et donc cela justifie tous les contournements de loi. C'est la fameuse baguette magique des projets d'utilité publique, hein, utilisés pour le nucléaire, pour les grands projets, etc. Ça permet de contourner toutes les lois, c'est très pratique. Hein. Franchement, je vous conseille de l'utiliser si vous êtes préfet.
Ah oui, ouais, moi régulièrement je l'utilise d'ailleurs.
Ah ouais, bah moi à chaque fois que j'étais préfet, je l'ai utilisé. Et puis, surtout derrière, c'est la métropolisation de Nantes-Saint-Nazaire, un accès direct en Amérique du Nord. L'idée, c'est de faire de Nantes-Saint-Nazaire donc le pôle urbain le plus attractif de l'ouest de la France, aux dépens des populations locales et au profit direct de la bourgeoisie. Alors, cette opposition, elle est multiple. Il y a d'une part La CIPA, c'est un regroupement d'associations citoyennistes qui font recours sur recours juridique, donc qui retardent le projet, mais qui finalement s'empêtrent dans ces recours juridiques sans réellement réussir à empêcher la construction et le développement du projet. La résistance sur la zone elle-même, donc c'est la ZAD, jeu de mots, zone différée avec zone à défendre, voilà, qui regroupe une multitude de groupes et individus. Des habitants et agriculteurs d'une part, ce qui est quand même non négligeable dans cette lutte, puisqu'il y a d'autres ZAD, on le verra tout à l'heure, où ce n'est pas le cas. Et depuis au moins 10 ans, une accélération post-mouvement CPE, donc après 2006, par des occupations de terres, des occupations de maisons achetées par Vinci, etc. Bref, une résistance de terrain, regroupant des écologistes radicaux, des alternos de tous bords, donc des anards, des anarcho-primitivistes, des autonomes, des communistes libertaires, des punks. Il y a plein de composantes qui occupent la ZAD, qui ne voient d'ailleurs pas tous leur implication dans cette lutte de la même manière. Pour certains, c'est une lutte anticapitaliste, et pour d'autres, c'est une lutte citoyenniste pour garder les terres, contre la bétonisation. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs composantes, et c'est important de le savoir, puisque y étant allé plusieurs fois, c'est quand même quelque chose que j'ai repéré et que d'autres ont repéré. Ce qui est sûr, c'est que cette résistance énerve le pouvoir. Plusieurs interventions policières.
La crête du mec, il est allé à Notre-Dame-des-Landes.
Ouais, moi je suis comme As, t'as vu, j'ai été à la ZAD. Plusieurs interventions policières et de gendarmes mobiles d'ampleur ont eu lieu sur zone, avec des violences policières considérables, et là c'est moins drôle, des mutilations à vie par tir de flashball, ou grenade offensive, ou de désencerclement, dont l'apogée a été en novembre-décembre 2012. Où la zone a été littéralement occupée par les gendarmes mobiles qui, d'ailleurs, pour certains, en ont eu marre. À un moment, ils l'ont fait savoir de se prendre des mottes de terre en pleine tête toute la journée. Alors, cette occupation de zone, ça provoque généralement et très régulièrement des condamnations. Des condamnations, il y en a eu par centaines, parfois très lourdes. Des assignations à résidence de militants. L'impunité policière, comme d'habitude. Voilà, alors pour terminer sur cette ZAD, parfois, elle a provoqué une désertification de Nantes sur le plan militant. Autant en ce moment, on peut dire que la dynamique nantaise autour ou contre les élections et probablement après les élections existe aussi grâce à la ZAD. Son futur, eh ben on le verra bien avec le prochain quinquennat, mais il est probablement ni tout rose ni tout bleu, mais en tout cas la résistance, on sait qu'elle est bien présente.
Alors partons vers Sivens aussi, qui est un projet de barrage de 1,5 million de mètres cubes sur le cours du Tescou dans le Tarn, avec la submersion de 13 hectares de zone humide, donc comme on a vu, refuge de plusieurs espèces protégées. Le début des travaux en août 2014 a été fait par un déboisement massif de la zone et doit coûter 8,4 millions d'euros sur 41 hectares de superficie. Tout ça pour irriguer des cultures intensives de maïs. Donc c'est un projet mené par Martin Malvy, président de région PS. Il faut savoir que les opposants ont occupé le terrain durant 16 mois. Il faut dire qu'à Sivens, la tension est montée quand les grands propriétaires terriens de la FNSEA et les milices fascistes ont commencé...
Dont le regretté ouais. Chef nous a quittés récemment.
Ouais, trop bien. Ça, il a payé. On commençait à encercler la ZAD et en menaçant physiquement les opposants et les sympathisants. Alors il faut savoir que la Ligue des droits de l'homme a dénoncé une chasse à l'homme, des agressions physiques et un contrôle illégaux autour de la ZAD. Elle dénonçait aussi que la ZAD soit bloquée, isolée et ses occupants affamés. Et surtout une situation tendue, délaissée par les pouvoirs publics, ainsi qu'une atteinte au droit de la libre circulation. Alors, une étape de plus dans la répression a été franchie le 10 septembre 2014, un déploiement massif de 200 gendarmes pour une cinquantaine de résistants a été effectué avec toute la violence qui a suivi. Il faut savoir que le point d'orgue de cette violence policière a été malheureusement atteint dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 par la mort d'un militant écologiste tué d'une grenade offensive dans le dos, Rémi Fraisse, 21 ans.
On n'oublie pas.
On ne pardonne pas.
Dites-moi, dans quel pays a perdu sa vie Rémi Fraisse? Est-ce en Syrie ou en Libye? Ou si ça se trouve en Ukraine? Non, ce n'est pas en Palestine, au Mali ou même en Judée. C'est dans notre pays de France, pays des lumières d'antan. Il luttait pour sauver la terre, Rémi avait 21 ans.
Ça fait 3 ans que Rémi est mort et rien n'avance, mais plutôt tout recule. Les gendarmes reviennent encore et toujours sur la déclaration de Cazeneuve et de Valls sans rien y ajouter. Selon l'IGPN, la police de la police, il y avait des faits de violence caractérisés, mais au sein d'un peloton, un gendarme affirme qu'il n'y a pas eu de cocktail Molotov et d'ailleurs sur les vidéos non plus. Le seul gendarme blessé s'est égratigné un genou en sautant un fossé. D'après les appels radio à 1h du matin, on pouvait entendre « terrain tenu, pas de danger ». Alors, pourquoi cette grenade offensive ? Dans cette non-enquête, aucun témoin des faits n'ont été entendus, surtout quand ceux-ci disent avoir vu Rémi Fraisse lever les mains en l'air. Le commandant des JM, garde mobile, précise « Le préfet du Tarn nous a demandé de faire preuve d'une extrême fermeté ». Plus tard, les magistrats ont refusé aux avocats de la famille de Rémi l'audition du préfet et de son directeur de cabinet responsable de l'opération, car l'audition était très indirectement liée au fait. Malgré les manifestations, les hommages, les actions et la demande incessante de justice, de savoir pourquoi et comment, et surtout pour que les coupables soient punis par la justice, celle-ci n'a rien vu, n'a rien entendu et ne dit rien. L'État couvre les assassins. L'État a assassiné Rémi, du moins pour l'instant, car pas de justice, pas de paix.
Voilà, comme d'habitude, l'État couvre ses policiers qui tuent et mutilent. Alors... des ZAD, il en reste quelques-unes d'autres qu'on va vous énumérer rapidement. Voilà, c'est un peu devenu une mode. Hein. C'est dès qu'il y a un projet, il y a une ZAD. Non, pas dès qu'il y a un projet, il y a une ZAD, mais en quelque sorte, il y a quand même de plus en plus de ZAD qui parfois sont un peu discutables, même si certaines sont légitimes. Donc on va vous faire un petit tour de France des ZAD, non exhaustif bien sûr, car nous ne maîtrisons pas toutes les ZAD de France.
Exactement, il y a Roibon qui lutte contre la construction d'un Center Park, Bourriège, une forêt plus que centenaire rasée par le bon vouloir de Veolia, qui veulent installer des éoliennes industrielles, chercher l'erreur, à Sainte-Colombe-Bruyou, où des paysans accueillent des ZADistes contre un projet de train LGV. Mais aussi, il y a des projets contre la destruction environnementale telle que Bure.
Alors, en fait, Bure, c'est pas une ZAD, hein, mais il y a effectivement une opposition à ce projet. Ce projet, c'est un centre d'enfouissement de déchets nucléaires en France, le premier, puisque actuellement, les déchets nucléaires sont amenés en Allemagne, à Gorleben notamment. Et du coup, ce projet... qui effectivement, pour le moment, on n'a absolument aucune certitude quant à la gestion de ces déchets nucléaires, eh bien, il y a une très forte opposition à Bure. Donc on vous invite aussi à aller voir sur Internet. Il y a beaucoup de mouvements antinucléaires sur Bure contre ce projet.
Avec une répression terrible.
Exactement. Et il y a aussi, dans le sud-ouest, une mobilisation contre les trains LGV et la résistance à Ponant-le-Pin contre un stockage de déchets ultimes industriels. Alors, il faudra me préciser le terme parce que je n'ai pas trouvé, du groupe GDE.
Et on rappelle aussi tous les militants qui se mobilisent dans les quartiers populaires, à Paris, mais aussi à Lyon, comme à Vau-en-Velin, à Vénissieux-la-Duchère, et qui se questionne sur ce qu'on appelle le renouvellement urbain, et qui commence à qualifier la rénovation urbaine, voilà, avec le renouvellement des populations, et qui commence à présenter leur territoire, hein, qu'ils ont défendu, qu'ils ont habité pendant de longues années, comme des zones à défendre.
Alors, on va continuer avec le traditionnel...
Agenda.
Et qui c'est qui fait ça?
Qui va démarrer? Ben, on peut parler dès ce soir. Il y a le nouvel en Kurde à la place Mazagrande.
Oui, éteignez votre radio, descendez dans la rue.
Voilà.
Immédiatement. Allez.
Normalement, on va
dans la maison de la Mésopotamie.
Et à côté, allez, sur la place, il y a un défilé au flambeau. Ça démarre à 19h et ça dure, j'imagine, une bonne partie de la soirée. Donc, si vous éteignez votre radio et allez-y. Demain, il y a énormément de choses, des choses plus ou moins comiques selon d'où ça vient. Alors, on a donc à Redstrotz, à Vénissieux, l'usine qui va une fois de plus, le patronat a menti, alors qu'ils avaient des garanties de l'emploi sur le long terme. Bah, l'usine va fermer, donc il y a une grève. Mais en même temps.
Il y a une manif à partir de 10h30 et il y a un appel national de la CGT pour la défense de l'industrie en France et contre la logique du gâchis. Donc on salue l'initiative. Néanmoins, il n'y a pas d'appel à la grève. Donc une manif de permanents syndicaux. Merci. Allez, on aurait bien aimé venir.
Permanents syndicaux même.
Moi, j'apprécie parce que quand il y a grève, ils ne viennent pas toujours. Alors, au moins,
on aurait bien aimé venir, mais on ne peut pas, vu qu'il n'y a pas de préavis de grève.
Ah oui, vous voulez prendre des photos, vous ne les verrez peut-être plus jamais. Donc, au moins, il y aura du monde. Alors, dans le même jour, parce que demain, c'est une grosse journée, il y a. Alors, je vais vous le dire. Le mouvement des salariés du centre d'accueil pour demande d'asile Adoma prend de l'ampleur. Le mouvement initié par les salariés du CADA Adoma du Rhône s'étend désormais à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les salariés des centres d'accueil, pour demandeurs d'asile de la région sont à nouveau en grève mardi 21 mars, donc demain, rassemblement à 14h devant la direction régionale d'Adoma qui est au 144 rue Garibaldi, Lyon 6e. Mardi soir, enfin il y a d'autres trucs mardi, non je crois pas, mardi non. Soir il y a Rébellion, il y a le collectif des contributeurs de Rébellion qui se réunit à la Lutine, donc si vous voulez venir faire de l'entraide à l'écriture, si vous avez des idées, faire des reportages photos, vidéos, n'importe quoi, ben vous êtes les bienvenus, c'est à partir de 19h30 à la Lutine.
Voilà, et il y a le camarade Hollande qui vient à Vau-en-Velin pour se foutre de notre gueule sur ses 40 ans de politique de la ville, et du coup il y a le lycée Douaneau qui en profite pour faire un rassemblement, c'est l'occasion d'aller les soutenir.
Exactement.
Ouais, allez.
Et dans la semaine, samedi...
Samedi 25 mars, il y a une manif à 15h, place des Terreaux, une manif pour la liberté de circulation et d'installation des réfugiés, des migrants et des migrantes.
Contre toutes les frontières. Et le soir...